Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Eh bien bonjour, ça faisait un petit moment qu'on n'avions pas parlé BD et ça nous manquait. Et c'est pourquoi aujourd'hui on ne va pas se priver d'évoquer avec mon invité qui est Marc Jailloux. Bonjour Marc.
Bonjour.
On ne va pas se priver donc de parler BD et de parler surtout de notre héros de référence, Alix. Alors on a la chance de pouvoir prendre Marc Jailloux au milieu de tout son travail et de toutes les séances qu'il fait de dédicaces. Il revient à peine du Quai des Bulles à Saint-Malo, je crois bien.
Oui, tout à fait. Oui, c'est un petit peu la promotion. La promotion un petit peu nécessaire pour accompagner un album, surtout en cette période de fin d'année où ce ne sont pas des nouveautés qui manquent.
Et voilà, et justement, nous ne manquerons pas de dire que c'est une excellente idée de cadeau de Noël, pour tous âges d'ailleurs. Hein, et puis, on peut peut-être, ça ne se fait pas, mais on va le dire quand même, le lire avant de l'offrir. Hein, c'est quand même pas mal.
Alors, à partager en famille.
Voilà. Alors, de quel ouvrage s'agit-il? Nous ne l'avons pas dit. Il est paru il y a peu, au mois d'octobre. C'est Le Bouclier d'Achille. Donc, une aventure d'Alix, Alix le traditionnel.
Et Alix Intrépide, tout simplement.
Pardon?
Il n'y en a qu'un. Alix Intrépide, tout simplement, il n'y en a qu'un. C'est celui créé par Jacques Martin en 1948.
48, voilà. C'était,
donc,
c'était
en fait, les 75
ans. Exactement. Voilà. Alors, pour ce jeune homme de 75 ans, eh bien, on a un superbe album. C'est la sixième fois que vous dessinez pour Alix l'Intrépide.
Oui, tout à fait. C'est mon sixième album. J'ai fait un Orion qui se passait en Grèce, justement, puisque c'était la grande passion de Jacques Martin.
Oui.
Et qui lui-même regrettait un petit peu à demi-mot d'avoir d'avoir créé son personnage d'Alix à l'époque de la période républicaine de la Rome antique. Et il avait une grande passion pour la Grèce, dont son personnage d'Orion. Et puis là, donc, c'est mon sixième album au dessin, avec pour la première fois un scénario de Roger Setter.
Voilà, alors justement, on va en parler dans un petit moment. Mais effectivement, moi, je trouve qu'il a eu raison de situer de faire naître son Alix en Gaule, puis ensuite le faire voyager un petit peu partout, parce que justement, il va en Grèce, il fait des voyages, cet Alix. Et le monde romain, c'est un monde cosmopolite.
Oui, tout à fait, oui. Mais c'est vrai qu'à travers cet album, on voulait aussi rendre un petit hommage à la Grèce antique. C'est ce qui transparaît à travers le scénario que j'avais proposé à Roger Setter, enfin la thématique, en tout du moins. On s'est un petit peu rencontrés, on se connaissait un petit peu, et puis on en a un petit peu discuté par Internet. Et en fait, on a commencé, moi je lui ai dit que j'aimerais bien travailler sur cette thématique-là. Donc,
oui.
Lui, il a été piqué au vif, il a vite réagi et il a écrit rapidement un synopsis qu'il m'a proposé.
Alors donc, Roger Setter, moi je ne le connaissais pas, mais donc j'ai appris du coup à apprécier son travail. C'est un historien de formation et ça aussi, c'est un point que vous avez en commun parce que vous avez de tout temps adoré l'histoire.
Oui, mais tout à fait. Bah, c'est vrai que moi, de mon côté, j'ai toujours, c'est vrai que j'ai une prédilection pour la bande dessinée historique. Je le dois essentiellement à Jacques Martin. Donc c'est vrai qu'il y a une appétence pour tout ce qui est reconstitution, documentation sérieuse. Et c'est vrai que j'essaye aujourd'hui de m'entourer de d'éminents, en tout cas chercheurs ou des gens qui ont la possibilité de m'aider dans les représentations graphiques. Je pense notamment à Jean-Claude Golvin.
Oui, à qui vous rendez hommage d'ailleurs, hein, puisque son nom est cité. Et
oui.
On reparlera tout à l'heure à quel moment précisément vous lui avez demandé un petit peu d'inspiration, on va dire. Alors effectivement, ce Roger Setter, ce scénariste, eh bien, il faut saluer son travail que j'ai adoré, tout comme le vôtre. Et simplement, dans sa bibliographie, je vois un ouvrage qui s'appelle, et que je ne connais pas, Simplicissimus, oui. Est-ce que c'est un ouvrage en rapport avec l'Antiquité? Peut-être pas du tout, hein.
Alors, je l'ignore complètement. Moi, je le connaissais de l'époque de chez Casterman, je sais qu'il avait, publié une série qui était assez connue, qui s'appelait Fog,
oui.
qui se passait au 19e siècle. Je me rappelle de cette série. Sinon, bon, il était aussi le scénariste de Lefranc, donc il a fait plusieurs Lefranc. Donc il connaît très très bien l'univers de Jacques Martin. Il est tout comme Jacques Martin, strasbourgeois de naissance.
Oui.
Et donc, voilà, et c'est quelqu'un qui connaît très très bien l'œuvre de Jacques Martin et qui a relu tous les albums justement avant de se lancer dans cette reprise. Donc c'est très agréable. C'est quelqu'un qui connaît bien l'histoire et aussi évidemment le travail de Jacques Martin. Donc il est capable de me fournir un découpage qui justement est tout à fait aéré et construit de telle manière à ce que le récit tienne en 46 pages.
Ben oui, parce que justement, on va parler de ce scénario, il est vraiment extrêmement bien ficelé, mais je reviens justement à vos points communs. Vous avez cité Jacques Martin, souvent vous aimez aussi à rappeler, mais c'est une sorte de filiation en cascade que vous avez aussi travaillé avec Gilles Chaillet, et ça aussi c'est le même univers.
Ah ben oui, tout à fait. Moi, j'ai eu cette grande chance de pouvoir travailler, intégrer l'atelier de Gilles Chaillet. Il y avait des soucis à la main et j'ai pu commencer à faire mes premières armes, justement, en l'assistant à l'ancrage. Voilà. Bon, c'était assez émouvant parce que c'était la première fois que Gilles voyait ses crayonnés, hein, puisque quand on fait une page, on fait d'abord les crayonnés, puis l'ancrage. Et donc, comme je faisais l'ancrage, ben, son cliné était amené à disparaître et à être gommé. Donc, c'était quand même à la fois une preuve de confiance et quelque chose d'extrêmement motivant pour essayer justement d'avoir le niveau de Gilles Chaillet qui avait été, je pense, l'un des meilleurs assistants de Jacques Martin.
Et voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a une sorte de filiation en chaîne. Et de même, vous dites souvent que peut-être votre goût pour l'Antiquité vient de votre lecture tout petit d'Alix.
Ah oui, c'est vrai, oui, vraisemblable. Et puis d'autres ouvrages, c'est vrai que j'ai toujours aimé dans les livres d'histoire, les tableaux d'époque, même ceux qui étaient pompiers, etc. J'ai toujours été très attiré par ça. Et c'est vrai que Gilles, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il avait été, Gilles Chaillet avait été, en fait, était féru d'antiquité et de romans antiques. Donc j'ai appris beaucoup aussi à ses côtés. Il m'a beaucoup transmis sa passion pour Rome. Et paradoxalement, donc il était connu pour le livre qui a été même traduit en japonais, La Rome des Césars, qui est vraiment un livre que je conseille à tous ceux qui s'intéressent.
Oui, un ouvrage de référence. Oui.
Voilà. Et en fait, paradoxalement, il est plus connu pour. Enfin, il était connu pour ce livre. Et à côté de ça, lui, il travaillait sur Lefranc, effectivement. Et ce qui est assez amusant, puisque Roger Setter est scénariste sur cette série Lefranc en parallèle.
On dirait que tous les fils se recoupent à l'occasion de cette 42e album d'Alix l'Intrépide. Alors, vous disiez votre passion pour la Grèce et vous aviez commencé par reprendre Orion avec les oracles, hein, je crois, en 2011.
Tout à fait, j'ai écrit le scénario et réalisé les dessins à partir d'un voyage que j'avais fait en Grèce. Effectivement, je m'étais rendu compte qu'il y avait un sanctuaire que j'ai visité qui s'appelle le Nécromantéion. Qui est en fait, on va dire, le sanctuaire de l'oracle des morts, qui m'avait donné envie de créer une histoire. Et plutôt que de créer un personnage nouveau, je savais que Orion était en berne, donc c'est ce qui m'a donné envie d'écrire ce quatrième tome d'Orion. La série était arrêtée depuis 10 ans.
Oui, une belle reprise et encore une fois, belle filiation. Le dernier des Spartiates aussi. Et de sorte que ce qui est admirable, c'est que vous êtes complètement fondu, même dans la plume, utilisant, dites-vous assez souvent, les mêmes dimensions, le même papier, la même façon de travailler.
Ben, la chance d'avoir connu Jacques Martin, on va dire, les 10 dernières années de sa vie, j'ai pu effectivement avoir de nombreuses discussions avec lui, ce qui peut m'aider parfois un petit peu dans le jeu des acteurs, dans les thématiques ou dans certains choix artistiques. Et aussi, effectivement, j'ai pu bénéficier notamment des gabarits qu'il utilisait pour le format de ses planches. Voilà, j'ai ce genre de documents qui sont très précieux. J'ai pu, les enfants... m'ont offert en fait le papier, une partie du papier qui restait de
Ah, ça, je ne savais pas, d'accord. Oui.
Voilà, donc j'ai récupéré ce vieux papier qui tient presque tout seul sur la table quand on le pose. J'ai hérité de ses plumes. Voilà, donc j'ai tout. Il y a une transmission, mais qui a été à la fois je dirais, plus technique de la part de Gichelier. Et après, il y a eu des petits témoignages, il y a eu des petites passations matérielles, mais il y a eu plus le côté, je dirais, dans l'esprit de la série, en fait, ou l'esprit de cet artisanat qui effectivement, a été transmis. Et pour moi, c'est aussi assez émouvant, en fait, de me dire que, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer ces personnes qui m'ont transmis leur passion et une partie de leur savoir, et j'essaye de l'honorer de mieux possible.
Apparemment, c'est bien réussi. Et de même, vous dites que le travail ne se fait pas dans un atelier, et ce n'était pas comme ça que l'avait conçu Jacques Martin, mais c'est un travail sans doute solitaire à la maison.
C'est-à-dire qu'effectivement, bon, Jacques Martin avait été très marqué ayant travaillé au studio Hergé. Je pense qu'il a eu des choix tout à fait différents de ceux d'Hergé, c'est-à-dire de ne pas travailler dans un studio physique. Bon, aujourd'hui, on parle de télétravail, hein, mais c'est un petit peu ça. Donc, de travailler chacun chez soi. Et effectivement, et à l'inverse d'Hergé, il voulait que ses personnages lui survivent.
Alors justement, ce travail chacun chez soi, comment ça se passe? Il n'y a peut-être pas de généralité à faire, mais ça commence comment le travail? Et je vais d'abord poser une autre question avant d'attendre la réponse à celle-ci. C'est l'idée de faire le bouclier d'Achille, qui l'a eu?
Alors l'idée du bouclier d'Achille, c'est une idée qui me revient. En fait, j'avais très envie de renouer un petit peu avec la mythologie. Jacques Martin avait évoqué cette partie, donc la guerre de Troie, dans le bouquin, son album qui s'appelle Le Cheval de Troie.
Oui.
On voit de dos un petit peu Hector, bon, enfin c'est très succinct, on voit un tout petit peu les murailles de Troie. Il avait illustré un livre qui est très peu connu, qui est vraiment un livre un tirage de luxe d'un album, mais c'était plutôt illustré par Christophe Simon qui avait finalisé les dessins, mais c'était une adaptation de l'Iliade, justement l'Iliade illustrée. C'est un livre qui est très très peu connu, mais donc c'était une thématique qui pour moi me renvoyait vraiment au Martin du Cheval de Troie et qui est le dernier album qu'il a entièrement réalisé. Donc ensuite l'idée était là, maintenant j'ai d'autres idées aussi en tête, mais là il se trouve que j'ai eu un écho très favorable de la part du scénariste Roger Setter, puisque lui-même est féru d'antiquité grecque, donc très rapidement ça s'est très très vite passé. À partir de mon idée, il m'a fourni un synopsis, je lui ai effectué quelques retours, notamment j'ai été assez favorable à ce que Alix et Enak soient dans leur quête accompagnés par Oratis, qui est en fait donc devenue, de l'idée du scénariste, la sœur de la reine Adrea,
oui.
Dernier spectacle. Ensuite, Roger me fournit on dépend d'un comité, le comité Martin, qui est composé des deux enfants de Jacques Martin et deux représentants de Casterman. Et donc, ce comité valide en fait toutes les étapes. Donc, on leur a soumis le synopsis. Puis, en fait, ensuite, une fois que le synopsis a été validé, Roger a développé l'album. Donc, il me fournit un fichier avec chaque page est découpée en cases, et chaque case est vraiment, dans chaque case, j'ai quelques indications éventuellement de cadrage ou d'intention, avec les textes, les narratifs et les dialogues. Donc à partir de là, moi, donc pour les 46 pages, hein, les 46 pages sont entièrement découpées, donc c'est la première fois aussi où moi je reçois un scénario entièrement fini avant de démarrer l'album, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Oui.
C'est-à-dire qu'auparavant, le découpage n'était pas finalisé, on savait où on allait, mais il y avait un petit peu, les pages n'étaient pas entièrement découpées en amont. Suite à ça, moi je travaille énormément le storyboard, donc j'ai un petit cahier où je fais des découpages, où je redécoupe jusqu'à avoir une certaine homogénéité dans la page, que la page se tienne, et que la page se tienne aussi en double page. Voilà, donc
oui.
Le professionnalisme de Roger fait que on essaye de garder un petit peu cette petite case en bas à droite, la page de droite en bas, on a toujours cette petite case qui est toujours censée être soit clore un chapitre, soit justement donner envie au lecteur de tourner la page. Ça, c'est un héritage des parutions du journal de Tintin.
Oui, en même temps que vous m'expliquez ça, je regarde effectivement, je le constate. Oui, oui.
Voilà, donc il y a ce travail comme ça qui est fait. Et donc à partir de là, moi, je travaille donc sur le gabarit des planches de Jacques Martin. Et là, on monte la page. Alors, je la dessine plus ou moins esquissée. Après, je monte l'esquisse, je pousse le crayonné. Une fois que le crayonné est donc validé par le comité Martin, je le passe à l'encre, ce qui nécessite une nouvelle validation. Et une fois que la page ancrée est validée, elle est scannée. Donc, je travaille en traditionnel. Hein. Une fois qu'elle est scannée, c'est là où le travail diverge de ce que faisait Jacques Martin, parce qu'à l'époque, c'était des bleus de coloriage, c'est-à-dire que les couleurs étaient faites à la gouache ou à l'acrylique, ou donc sur un papier à part. Aujourd'hui, c'est fait en numérique. Et donc oui. Là, j'avais travaillé sur un album qui s'appelle Saint-Pierre.
Oui, que j'adore aussi, oui.
Voilà, et donc j'avais pu rencontrer sur cet album donc la coloriste qui avait fait un magnifique travail.
Florence Fantini, oui.
Florence Fantini, voilà. Et donc quand on a travaillé sur cet album, effectivement, je cherchais aussi quelqu'un pour la couleur et je lui ai proposé de travailler sur cet album. Donc elle a accepté de faire un test qui s'avérait très très concluant. Donc je suis très content parce qu'elle a vraiment...
Ah oui, la couleur est magnifique et la lumière, oui, fantastique.
Voilà, elle a une sensibilité, donc on fait vraiment un travail, on va dire, un peu comme du vitrail. Et elle a vraiment fait une synthèse, elle a fait l'effort de relire les albums de Martin, qu'on jugeait les plus pertinents, et notamment même l'Odyssée d'Alix, où il y a des illustrations en couleur pleine page qui sont assez magnifiques. Il faut savoir que ces couleurs-là, à l'époque, étaient faites plus ou moins par des coloristes du sud ORG, puis après des filles qui n'étaient plus forcément sud ORG, mais c'était les meilleurs coloristes qu'on pouvait trouver à l'époque. Hein. Ils avaient un talent formidable. Et je trouve qu'elle a vraiment fait un super travail, et je trouve que mon dessin est aussi
complètement magnifié, valorisé.
Magnifié,
oui.
Voilà, par son travail. Donc c'est assez important parce que j'ai l'impression que certaines personnes me disent que j'ai vraiment fait des progrès. Alors c'est vrai que d'un album à l'autre, on essaye toujours de s'améliorer, hein, de progresser. Mais là, je trouve qu'avec ces couleurs, on est vraiment complètement en osmose.
Eh bien, c'est parfait. On va marquer une petite pause musicale et on se retrouvera après pour rentrer dans le détail de cet album, donc Le Bouclier d'Achille. À tout de suite, Marc. Alors, nous revoici, c'est Radio Alliance Plus, c'est Antiquissimo, et c'est surtout Alix l'Intrépide et Marc Jailloux, le dessinateur vraiment qui magnifie ce héros dans cette aventure qui se passe en Grèce et dont j'aimerais déjà que, d'ailleurs, ce que vous venez d'entendre comme musique nous avait bien mis dans l'ambiance de la guerre de Troie et de ces aventures-là. Je regarde la couverture déjà avant de rentrer dans le détail du scénario et je la trouve aussi magnifique. Elle est vraiment très bien étudiée.
Merci. Bah, effectivement, on a essayé de faire une couverture la plus efficace possible. Et il me semble que là, avec, on a quelque chose d'assez épuré qui fait que c'est
exactement,
une couverture qui voit loin et qui donne le ton déjà. On est vraiment en Grèce. Quoi. Il me semble que ce bouclier évoque le soleil. On est vraiment dans l'Antiquité sur ce ciel bleu avec un personnage de dos que les
plus le méchant de service.
Les plus fins connaisseurs de la série reconnaîtront. Et voilà, je trouvais ça amusant de le montrer de dos. Je trouvais que c'était un petit clin d'œil. Quoi. Voilà.
Et alors, Alix a l'air déterminé à en découdre. Hein.
Ah oui, il est vaillant hein, pour son âge. Franchement, il se laisse pas impressionner, même par Arbacès. Qui est le personnage qui s'est imposé par rapport au scénario. C'est-à-dire que c'était pas un personnage, c'est un personnage qu'on aime beaucoup, mais je ne l'avais jamais dessiné dans les 5 albums précédents. Donc là, il se justifiait complètement par rapport au scénario.
Alors justement, ce scénario, c'est vraiment, je trouve, magnifique parce qu'il est ficelé avec art, puisqu'on a en fait 4 grosses ficelles, 4 bobines qui s'enchevêtrent. Hein. Il y a bien sûr Alix, toujours, on peut dire d'une certaine manière, lieutenant de César, et il est au milieu de la guerre civile entre Pompée et notre Jules. Il y a cette histoire sur laquelle il va tomber presque par hasard d'Achille et de son bouclier et de son tombeau mystérieux. Il y a aussi ces femmes hein, dont vous avez évoqué l'un des personnages. C'est un très, très beau personnage féminin qu'on retrouve ici. Et donc, cette histoire de tablettes volées dans le palais d'Ulysse, c'est le début de l'histoire. Cette histoire d'Achille qui appartient à la mythologie et que les Grecs considéraient presque comme dans l'histoire avec un grand H. Et la mission d'Alix, message de Cléopâtre pour César à remettre confidentiellement. Et puis enfin, une autre ficelle, des gens qui voudraient se révolter contre Rome. Donc, il y a 4 bobines qui s'entrecroisent et d'une manière à la fois savante et très claire, on arrive à une intrigue vraiment dense.
Oui, tout à fait. Ben ça, on le doit vraiment à Roger Setter. Hein. C'est vraiment un grand professionnel. Je trouve qu'il a fait effectivement un travail qui est vraiment à la hauteur de mes attentes. Moi, ce qui m'intéresse surtout dans ce récit, ce qui m'intéressait surtout même à l'origine de ce récit, c'est la confrontation entre la mythologie et
le réel. Oui.
Voilà. C'est ce qui je trouve assez fascinant dans cette antiquité, puisque finalement, le bouclier d'Achille, c'était aussi le moyen pour moi d'évoquer Homère, d'évoquer l'Iliade, et d'évoquer en fait des choses justement... où on ne sait pas, enfin, qui font aussi appel au domaine de l'imaginaire, en fait.
Et oui, il y a aussi ces myrmidons qui sont merveilleux, quoi, parce qu'eux aussi, ils sont à la croisée de ces deux chemins que vous venez de tracer.
Oui, tout à fait. Ils rappellent d'une certaine manière le dernier Spartiate, mais sans être un copier-coller, puisque là, effectivement, on a le pendant de la reine Adréa, qui est la reine Adréa dans le dernier Spartiate, voulait effectivement résister à l'envahisseur romain avec son armée d'hoplites. Et là, on retrouve un petit peu quelque part. Alors, ce sont pas les gardiens d'Oratis, ce sont les gardiens du tombeau d'Achille, qui sont les Myrmidons, effectivement, qui étaient la garde rapprochée, effectivement.
Ah oui, d'Achille. Ils ont combattu avec Achille à la guerre de Troie. Hein.
Tout à fait. Ils ont vraiment existé. Et donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'était d'évoquer des lieux aussi mythiques que Ithaque. Et je prends soin à chaque fois aussi de travailler sur un album où Alix va sur des endroits où il n'est jamais allé auparavant. Ou en tout cas, pas de cette façon.
Alors le dessin que vous faites d'Épidaure, de la Tholos, enfin, c'est extraordinaire. Ah ben.
La chance que j'ai eue sur cet album, c'est que c'était la première fois, et je m'en suis rendu compte en le dessinant, j'ai pris beaucoup de plaisir, c'était la première fois qu'un scénario me permettait de dessiner autant d'architecture.
Voilà.
Parce que bon, on va pas refaire tous les scénarios des précédents albums, mais c'est vrai qu'Alix en Afghanistan, sur les traces du tombeau d'Alexandre, ou que ce soit en Grande-Bretagne, enfin Britannia à l'époque, c'est vrai que ce sont des endroits qui ne me permettaient pas de dessiner de l'architecture romaine.
Est-ce que là, vous êtes gâté, là hein.
Voilà, et donc là, on a même représenté...
la bibliothèque d'Alexandrie aussi.
Qui n'a jamais été représentée en vue extérieure. C'est-à-dire que c'était assez hallucinant quand j'ai eu ce... Donc je me suis dit, normalement, ce n'était pas prévu que je la dessine de l'extérieur. C'est prévu qu'on les voit à l'intérieur dans le découpage de Roger. Ils étaient vraiment à l'intérieur. Donc j'en ai profité vraiment pour me dire, mais c'est vraiment l'occasion de montrer cette bibliothèque de l'extérieur. Et puis aussi, j'en ai profité, en travaillant avec Jean-Claude Golvin, pour mettre à jour aussi les données de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un détail, mais les papyrus qui ont des petits triangles, justement, qui sont accrochés pour qu'on sache ce qu'il y a dessus. Et les papyrus sont vraiment dans des rangées, dans des étagères. Mais à plat, il n'y a pas de croisillon. Ça, c'était vraiment une interprétation d'une gravure du 19e qui avait été perpétuée, une erreur qui avait été perpétuée. Mais les récentes découvertes montrent que c'était vraiment juste des étagères, en fait.
Bien
donc,
sûr,
qui étaient protégées, fermées par des portes parce qu'il y avait des souris, des rats, etc. Mais, donc, je trouve ça intéressant de montrer ce genre de choses. Et puis, ça nous permet d'aller vers cette évocation progressive, justement, de par les papyrus que vont lire Enak et Alix sur la corbita tout au long du voyage. Ça permet d'évoquer justement d'où vient en fait ce bouclier légendaire.
Oui, sur lequel on a tous rêvé en lisant Homère et sa construction divine.
Alors, elle est complètement, quand on lit attentivement le texte, il est magnifique, mais il est complètement, déjà, il est énorme ce texte. Donc, si on doit, il est très dense, donc on voit que c'est quelque chose de plus symbolique que de figuratif. Donc, en fait, c'est toute la difficulté. Donc, l'idée, c'est d'avoir un bouclier qui soit plus un symbole que quelque chose de complètement...
Comme dans l'œuvre d'Homère, d'ailleurs. Hein.
Oui.
Alors, le temps passe et j'aurais aimé discuter encore beaucoup et notamment signaler toute l'attention portée à tout ce qui est maritime, les bateaux, les noms des chefs des rameurs. Il y a même, moi qui suis très, très intéressée par la cuisine romaine, vous évoquez le minutal de porc aux pommes, merveilleux. Et puis, on va dans la copa, dans une taverne, dans une caupauna. On voit aussi des gens qui travaillent. Donc, on est en plein dans ce qu'on adore, les réalia. On n'a plus trop de temps, Marc, c'est dommage, mais je sais que les auditeurs vont se précipiter sur le bouclier d'Achille, qu'ils le liront et qu'ils l'offriront. À très bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Radio Alliance Plus, 103.2.